Il est midi. C'est l'heure de connecter votre cerveau à l'Hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel Hippocampe. L'Hippocampe, c'est le podcast où votre cerveau trempe le mardi et le vendredi à midi en direct sur Storm quand il y a un direct. Et sinon, c'est en différé aux alentours de midi et demi, 13h sur toutes les autres plateformes où je vous invite à vous abonner, s'il vous plaît. Faites-le, sinon vous ne voyez pas les prochains épisodes et vous m'envoyez des messages en me disant « Mais Fabien, quand est-ce que ça sort ?» Mais c'est déjà sorti, c'est pour ça. Vous pouvez aussi laisser une note et un petit commentaire, peu importe la plateforme où vous m'écoutez, parce que ça aide beaucoup à référencer cet Hippocampe qui est votre podcast. Vous êtes les seuls ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est l'un des formats que je préfère, c'est le format où j'invite quelqu'un à discuter. Alors, c'est pas forcément des gens qui sont spécialistes de leur domaine, c'est des gens qui ont plus de connaissances que moi dans un domaine. Et aujourd'hui, ça va être autour de Pierre Bock. Je vous le présente pas parce qu'il va se présenter lui-même. On reçoit Pierre Bock sur l'Hippocampe et du coup, on s'inspire.
On expire et on s'inspire. C'est l'heure de l'invité du jour sur l'Hippocampe.
L'invité du jour, c'est Pierre Bock. Bonjour Pierre Bock.
Bonjour Fabien Olicard.
J'ai le droit de t'appeler Pierre Bock.
Oui, t'as le droit de m'appeler Pierre Bock. J'ai le droit de m'appeler comme tu veux.
C'est vrai, je peux t'inventer un prénom. J'ai le droit de te tutoyer.
Tu peux.
Ça tombe bien parce que on se connaît quand même depuis, j'allais dire très longtemps. Peut-être pas très longtemps, mais depuis longtemps quand même.
Alors j'ai regardé il n'y a pas longtemps, la première photo que j'ai de toi dans mon téléphone, sur ma pellicule, c'est 2016.
Oui, mais ça c'est quand tu me suivais dans la rue discrètement.
Oui.
Comment on s'est rencontrés, Pierre, tu sais, toi ?
Je crois que tu as acheté un des produit que j'ai commercialisé.
Ah oui, c'était Shop Test ?
C'est ça, et on a commencé à échanger comme ça.
Ah oui, oui, je croyais que c'était via Julien Loza, tu vois, qu'on s'était rencontrés. Mais
quelque part aussi. Hein.
Quelque part aussi, bien sûr. En fait, Pierre est mentaliste et il est plutôt... si, t'es performeur, mais tu as aussi un nom en tant que créateur dans notre domaine.
Oui, on peut dire ça. Après,
Mais aussi, on peut le dire.
oui, quelque part, oui.
Si, si, je le confirme. Et c'est comme ça, du coup, moi, que je t'ai rencontré via l'une de tes créations que tu avais faites. Et on a gardé le contact, on fait pas mal de choses ensemble, plutôt en rapport avec l'artistique. Mais on a aussi des grosses discussions qui est plus sur le fonctionnement d'une boîte, sur des process de travail, sur des choses comme ça. Parce que ton métier à plein temps est tout autre que le mentalisme. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que tu fais dans la vie ?
Alors, pour faire très simple, je travaille dans une, on va dire, c'est une association, c'est une NGO, et on crée des applications mobiles. Et là, en ce moment, on travaille sur une messagerie hyper sécurisée, et ça s'appelle Berti, B-E-R-T-Y, Berti.
Berti, ok. Et ton job dans ces moments-là, c'est-à-dire dans la boîte où tu travailles actuellement ou dans les autres boîtes, c'est quoi ? C'est quoi ton quotidien, en fait ?
Moi, je suis responsable opérationnel, donc ça veut dire que je gère... entre guillemets, normalement, tout ce qui n'est pas développement de l'application.
Ok. Et de par ces milieux-là, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte à quel point on avait des points en commun dans des centres d'intérêt, mais je me suis aussi aperçu que tu avais plus de connaissances que moi dans ces domaines-là. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est exactement le format de on expire et on s'inspire, c'est-à-dire on prend quelqu'un qui a plus d'expérience et puis on va un petit peu l'écouter. Et le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, et vous le savez parce que vous l'avez vu dans le titre, c'est au niveau des boutiques en ligne. Alors, je pose un petit peu la situation, Pierre. J'ai créé il y a quelques mois une nouvelle société avec Fanny, mon associé, qui s'appelle Watson's Mind, parce que ma première boîte s'appelle Sherlock's Mind. Et Watson's Mind va s'occuper de plein de choses, du merchandising de ma tournée, mais également d'une boutique en ligne qu'on va lancer, mais qu'on a déjà un petit peu lancé en vrai, mais pas officiellement, mais elle existe. C'est là où on trouve Cerebrum, le livre numérique aux 100 énigmes de 150 pages. Nous, on a choisi de prendre Spotify un peu par hasard.
Shopify peut-être.
J'ai dit Spotify. T'as non, dit Spotify. Ça s'écoute.
Oui, ça s'écoute.
Je lis tous les produits.
Tu lis.
Okay. Ça prend énormément de temps, genre. Et là, vous voyez le domaine de compétences. Shopify, donc oui, bien sûr, un peu par hasard et aussi un petit peu parce qu'on t'a dit Shopify, ça va, ça a l'air cool parce que ça a l'air linkable à plein de trucs et tout. Et tu nous as dit, ouais, ok, c'est bon. Donc, ma première question, alors on va peut-être préciser, t'es pas spécialiste des boutiques en ligne.
Pas du tout.
Pas du tout. Mais par contre, t'as un vrai regard dessus et une petite connaissance et une petite expérience de ça.
En fait, je pense que là, je te rejoins là-dessus. Quand je comprends pas, j'aime pas vraiment ça. Et du coup, j'ai tendance à investiguer et à me faire ma propre opinion. Donc, ouais. Le site e-commerce, un petit peu, quoi.
Mais c'est parfait, du coup, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Plutôt que de le faire, je t'ai invité toi. Bah, c'est pas mal du tout. En gros, pour toi, est-ce que toutes les boutiques en ligne, les solutions, hein, quand je dis boutique, c'est les solutions de boutique en ligne, est-ce qu'elles se valent toutes plus ou moins? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses à éviter ou des choses à avoir absolument?
Alors, je vais te faire une réponse de Normand.
Ça dépend.
Ça dépend. Et en fait, du coup, je vais préciser ma réponse. Je te dirais que ça dépend de ce que tu souhaites faire. Et si tu souhaites commercialiser un produit uniquement digital, si tu souhaites faire du physique, si tu as envie de gérer des stocks. En fait, toutes ces petites options-là, il faut déjà que tu les définisses avant de choisir ta solution. En fait.
Prenons un exemple concret au hasard, ma boutique. Ouais. Nous, on va avoir les deux. On va avoir des produits digitaux comme des e-books ou des vidéos. Et on va aussi avoir, à terme, c'est vraiment le but, des produits physiques.
Ouais. Alors du coup, là, je te répondrai, est-ce que tu as envie d'avoir autre chose sur ton site? Est-ce que tu as envie d'avoir du blog? Est-ce que tu as envie d'avoir des pages de contenu, etc.? Si ça, c'est quelque chose qui t'importe peu, je te dirais que Shopify, c'est
et
bon
ça
choix.
M'importe ouais. peu. Ça tombe bien. Hein.
Ça tombe bien.
Mais si je t'avais dit oui, ça m'importe beaucoup, Pierre.
Eh bien, je t'aurais demandé c'était quoi ton site, en fait. Je t'aurais demandé si tu utilisais WordPress, par exemple, ou ce genre de choses. Et là, en fait, tu peux aller choisir des plugins que tu vas mettre sur WordPress. Oui. Ou sinon, si pas du tout, je t'aurais peut-être dit aller voir du côté de PrestaShop. Voilà.
Ok. Il y a un site pour l'instant que tu ne nommes pas, c'est Wix. Qu'est-ce que tu en penses?
Je t'avoue que je n'ai pas trop investigué Wix. Déjà, de base, je suis assez réfractaire. J'ai un a priori, totalement infondé sur Wix. Je pense que c'est parce que la première fois que je l'ai utilisé, j'étais peut-être pas dans le bon mood et je l'ai un peu écarté des solutions. Et je me suis très vite penché vers WordPress, qui répondait pour le coup à mon besoin, qui était de faire un site un peu vitrine. Et j'ai trouvé mon compte comme ça.
Moi, j'ai un peu tapé dans Wix, en vrai, parce que je me suis vraiment posé la question de m'en servir ou pas. Et cette simplicité apparente m'a paru aussi un frein pour mettre les mains dans le cambouis.
Ouais.
J'ai eu l'impression que, alors autant, on va pas se mentir, je suis assez paumé sur Shopify, mais dans le bon sens du terme, je suis un paumé excité. Tu sais, je vois que je me dis, putain, il y a trop de trucs à faire, c'est sûr, mais je sais pas trop encore si je touche à tel fil que va devenir la pelote de laine, tu vois, sur Wix. Je me suis dit, ah ouais, c'est une fois que ça va être mis, j'ai vraiment la main sur peu de choses. C'est l'illusion ou la réalité que ça m'a donnée.
En fait, généralement, c'est ça. Plus c'est simple à utiliser, moins tu pourras personnaliser et aller profondément dans les choses. Sauf si tu bidouilles et que tu commences à coder. Mais généralement, si tu vas vers des solutions comme ça, c'est parce que tu cherches à éviter.
C'est ça, c'est exactement ça. Dans le cambouis,
quoi.
Ouais, ouais. Là, j'ai une pote par exemple qui a une boutique Wix qui s'appelle Margot, la boutique de Margot. Donc, on échangeait un petit peu nos expériences respectives et je me suis aperçu qu'elle était dépendante d'une mise à jour 2 pour des frais postaux.
Ouais.
Et je me suis dit, ah non, mais jamais, je veux jamais ça. Donc, on va dire les boutiques comme Shopify, PrestaShop, WordPress,
WooCommerce
que je connais pas du tout là. Et par
du coup, il y a un plugin de WordPress, c'est l'un des plus utilisés au monde. Mm. Je crois qu'il y a une trentaine de pourcents des sites e-commerce dans le monde qui sont sous WooCommerce.
Ok.
Et WooCommerce d'ailleurs, tu vois, pour moi, c'est l'un des plus difficiles à mettre en place. Par contre, c'est l'un des plus personnalisables, on peut dire.
Ouais. Oui, c'est ça après au final. Parce que toi, on va dire comme ça, si tu devais citer 4 ou 5 noms de boutiques, ce serait lesquels de solutions?
Je te dirais que pour moi, le podium, c'est, pas dans l'ordre, hein, mais le podium, c'est PrestaShop, le français, Shopify et WooCommerce.
Ok, ouais, pas forcément PrestaShop. Si, t'as dit PrestaShop, alors pas forcément lequel. WooCommerce, c'est du WordPress au final.
Ouais, en fait, WooCommerce, c'est un petit peu c'est un plugin qui s'installe sous WordPress.
Ok.
Donc en fait c'est un petit peu comment on peut dire. Si tu regardes WordPress c'est un peu. Je suis en train de m'embrouiller dans mes explications mais ce que je veux dire c'est que c'est un plugin qui est rattaché sur WordPress. Tu peux pas le mettre.
Ouais. C'est pas indépendant, c'est pas autonome, c'est pas. Ok. Et encore une fois un podium mouvant parce que après le besoin final va orienter la réponse aussi.
Exactement.
Quoi.
Et aussi, après, tu rentres dans des considérations tarifaires, tu rentres sur des. Tu vas aller chercher, par exemple, si tu as besoin d'importer tout un catalogue d'un coup, si tu as besoin de. Si tu cherches, par exemple, un petit plugin qui t'envoie automatiquement ton PDF que tu as généré, ou. En fait, tu vas aller chercher l'option qui t'intéresse Et surtout, il y a une question que je me pose tout le temps, c'est quoi le devenir demain de la solution, en fait. Est-ce que je vais être limité dans le temps? Je préfère passer du temps à monter quelque chose, même si c'est, on va dire, overkill par rapport à mon besoin actuel. Par contre, dans le temps, si jamais, je sais pas, je passe le million de commandes, est-ce que ma solution fonctionnera tout le temps? Parce que j'ai pas envie d'y retourner dessus.
C'est un réflexe de start-upper, là, que t'as.
Bah, c'est exactement la philosophie start-up. Hein. C'est que tu sois une personne ou du moins que t'es un client ou 10 000.
Comment on appelle ça? J'ai pas le vocabulaire. C'est scalable?
Scalable, ouais. To scale,
en anglais. Ouais, ouais. Scalable. Faut que ce soit scalable. Ok. Ok, alors c'est rigolo parce que c'est à peu près ma crainte, c'est pour ça que la boutique n'est pas encore réellement lancée. Mmh. C'est-à-dire que je veux qu'elle soit lancée 2000, je veux qu'elle soit prête à accueillir un énorme flux qui ne risque pas encore d'exister. Mais du coup, même cet énorme flux m'oblige à réfléchir déjà à engager quelqu'un qui puisse gérer ça à ma place et à la place de mon associé, les questions, le SAV ou les envois physiques potentiellement dans le temps. Alors que la boutique n'est pas encore lancée et elle n'a pas vocation non plus, cette boutique, à devenir hyper autonome très vite. Mais dans le même état d'esprit, là, via un moyen humain, où je me dis, il faut qu'on soit prêt. En fait, c'est même pas être scalable, là, c'est je veux être emmerdement scalable.
Ouais.
C'est-à-dire que quand les emmerdements vont commencer, je veux ne pas avoir à les gérer. Tu vois l'idée ?
Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, là, tu touches un point qui est important, qu'on ignore généralement tous. C'est est-ce que le SAV de la solution est facilement accessible, disponible, répond rapidement. Moi, je dirais, c'est un truc que je regarde généralement en dernier.
Ouais.
Mais quand je suis dans une... Parce que moi, je me suis beaucoup amusé à monter des petits sites e-commerce, on va dire, pour le fun. Ou parce que ça avait... Généralement, je suis assez pragmatique comme personne. C'est-à-dire, je veux sortir mon produit de magie, tu vois, par exemple. Bah, je vais monter une petite plateforme et je veux que ça me prenne une heure.
Mmh.
Et après, ça tient la route, ça tient pas la route, c'est pas grave. Parce que je ne vais pas être sur des flux de commandes incroyables. Mais je pense qu'effectivement, le SAV, tu vois, c'est un truc que tu dois bien regarder parce que quand tu es emmerdé, ça compte en fait.
Oui, ouais, c'est vrai que ça compte énormément. Nous, on l'avait vécu pour le coup pour un logiciel dont je t'avais parlé une fois qui s'appelle Spectacle, qui permet de faire les cachets intermittents. Pourquoi cette solution plutôt qu'une autre? Parce que leur SAV, c'est de la bombe.
Ouais.
C'est au téléphone, c'est avec une personne unique, donc tu as l'impression qu'elle te connaît. Et leur but est toujours que tu y arrives, tu vois, et tu ressens ça. C'est la raison pour laquelle, à une époque, j'utilisais chauffeur privé plutôt qu'Uber.
Ouais.
Parce que sur un problème équivalent très simple, j'avais une réponse qui était précise, qui était impliquée. Et bon, maintenant, chauffeur privé est devenu capitaine, et capitaine s'est fait manger là, il y a quelques jours, d'ailleurs.
Par Freenow.
Dont la solution ne me plaît plus du tout, d'ailleurs.
Je t'avoue que je n'ai pas regardé.
L'absorption des solutions, c'est un vrai problème pour moi en tant qu'utilisateur. Hein. Je le vis assez mal parce que ça change les designs, ça change mon amour de la marque. Ouais. Je dévie la conversation, mais...
Mais je te rejoins totalement.
Mon espèce de truc de loyauté de la marque disparaît et en général, je suis déçu par soit vrais problèmes, soit par des changements d'habitude. J'utilisais un service qui s'appelle ZipJet pour ma lessive au kilo. Ils se sont fait absorber par... c'est peut-être Wast, un truc comme ça. Bon, bref, j'ai mangé le nom. Et j'avais plus de créneau fixe, c'était des plages horaires, j'avais plus ceci, j'avais plus cela. Je n'utilise plus aucun service de ce genre aujourd'hui.
En fait, c'est le problème que tu retrouves. Du moins, c'est le problème majoritaire que tu retrouves quand les gens se font bouffer, qui veulent grossir trop vite. Ils en perdent leur ADN, leur valeur, leur design,
leur point différenciant.
Exactement.
Ouais, complètement. Chauffeur privé, le vrai point différenciant pour moi, c'était toujours dire c'est français, ils margent moins, ils ont un super SAV. Dès qu'ils sont devenus capitaines, c'était moins le cas. Et alors là, je vais pas dire que c'est plus du tout le cas parce que je n'ai pas utilisé l'appli correctement encore. Tu vois ce que je veux dire ?
Je comprends.
A priori négatif. Bon, heureusement. On n'en est pas à se faire racheter Watson's Mind.
Pas encore.
Ah, on ne propose pas une solution particulière non plus pour la face du monde. Mais je vais vouloir la développer, cette boutique. C'est quoi les chemins que je peux prendre? Moi, le seul chemin que je connais, c'est de dire à tous ceux qui me connaissent, j'ai ouvert une boutique à l'intérieur de laquelle on trouve ceci, cela. Mais je veux l'associer à une vraie stratégie marketing que je sais faire, je sais copywriter, je sais faire pas mal de choses, mais je ne sais pas promouvoir sur Internet en dehors des réseaux que j'ai su construire. J'ai ce talent de savoir construire un réseau, mais je n'ai pas le talent de communiquer. Alors, tu vois, par exemple, sur Shopify, j'ai vu le pixel Facebook.
Ouais.
J'ai fait, waouh, ça doit être super pour avoir des données. Qu'est-ce que je fais de ça?
Je crois que je te répondrai, tu vois, je te poserai une seule question, c'est est-ce que tu as le temps?
Alors, j'ai le temps via la personne que je recrute.
Ouais, parce que si tu es pressé, bah, tu vas commencer à tuer de l'AdWords ou des choses comme ça parce que tu as besoin de générer du trafic. Si tu as le temps, moi, je crois vraiment, mais vraiment fermement un truc, c'est, alors, je sais plus qui a dit ça du tout, hein, mais c'est si tu fais 10 fois meilleur que tes concurrents pour 10 fois moins cher, forcément que tu vas marcher.
Ouais.
Ça prendra tout le temps que ça prendra. Sure. Mais je suis intimement convaincu que tu fais mieux pour moins cher, ça marche mieux.
Ouais. Ah oui, et c'est qu'une question de temps. Ça a été à peu près ma strat pour YouTube, hein, de me dire, je vais faire 10 fois plus de vidéos que les autres, mais je vais essayer de ne pas trop renier sur la qualité. Et la présence sur le truc, ok, c'est intéressant. Shopify a énormément de plugins, ça m'excite énormément. Ouais. C'est l'une des forces de cette solution, ou les autres solutions que tu cites, elles aussi, ont pas mal d'ouverture comme ça?
Ben en fait, on va dire que les solutions, elles se tiennent plus ou moins toutes. Ça dépend un peu comment dire, de ce que tu veux faire, mais ça se tient tous. Et ce qui va vraiment être différenciant, c'est les plugins. Et c'est ça aussi qui va faire varier le coût de ton shop, en fait.
Ouais.
Parce que si tu prends, par exemple, un Presta, qui coûte, ça coûte quasi rien, mais si tu commences à rajouter les plugins, le thème, l'hébergement serveur, etc., là, ça commence à chiffrer. Donc, en fait, c'est toutes ces questions-là que tu dois aussi anticiper. Et des fois, tes besoins évoluent et tu te prends des grosses surprises avec des plugins à 200 euros par mois.
Ouais.
Mais est-ce que c'est rentable?
Ouais, ouais, ouais.
Typiquement, je pense à un truc sur Shopify. Si tu fais la relance des paniers abandonnés,
oui.
Bah, tu ne peux plus être sur le premier abonnement qui doit être aux alentours de 30 euros, mais presque à 80 euros par mois.
Okay.
Donc, il faut pouvoir l'absorber facilement.
Ouais. Ouais.
Donc, il faut déjà que tu génères suffisamment de cash via la boutique.
Oui, et c'est intéressant ce que tu dis. Nous, quand on a fait le faux lancement de départ pour Cerebrum, qui est toujours disponible, hein, d'ailleurs, vous l'avez dans le Linktree, au départ, je l'avais mis à 4,90 €. De toute manière, c'est un produit digital, j'ai envie de lancer le truc. Voilà. 4,90 €, quand j'ai déduit déjà les commissions.
C'est quoi, t'étais 2% à peu près?
Ouais, PayPal ou Stripe, mais on n'avait que PayPal.
Non, je te parle de la commission Shopify.
Et après la commission Shopify, exactement.
Deux, hein.
Donc une fois, et ensuite la TVA, évidemment. Bah, une fois que j'avais enlevé ces trois-là, je me disais, il reste un bal.
Ouais, ça va vite. Hein.
Donc ça va très vite. C'est pour ça qu'on a été obligé de le passer à 6,90 € pour en fait rémunérer tous ceux qui doivent l'être sur notre route. Et donc là, je te rejoins de se dire, effectivement, est-ce que ton plugin, tu peux l'absorber? Parce que les produits, qu'ils soient digitaux ou physiques, il faut vite faire un sacré coef, beaucoup plus important que ce que je pensais. Parce que là, encore une fois, on n'était pas sur un truc où on générait on avait des frais de publicité ou de communication. Il y a eu juste Amixem qu'on a parlé dans une de ses vidéos. Ça a permis, avec moi, une petite communication sur Instagram, mais sur le mien, donc gratuite, de générer assez de passages pour avoir un espèce de cash flow de base, tu vois, pour la société. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a assez de sous pour se dire on peut lancer des choses. On n'a pas assez de sous pour se dire on va tout essayer. Tu vois, c'est à peu près ça, quoi, tu vois. Mais oui, nous, on n'avait pas forcément pris en compte, oui, tu as raison, le prix des plugins.
Bah, c'est un truc que moi, je me suis fait aussi avoir sur le dernier produit que j'ai commercialisé en magie. J'avais mis frais de port offert sur une période de pré-lancement. Et en fait, j'avais pas anticipé qu'il y avait des gens, par exemple, en Polynésie, tu vois,
sûr,
qui pouvaient
être sûr.
Et du coup,
sûr.
Je me suis fait un peu bouffer la marge, mais...
Ouais.
Enfin, c'est le jeu, quoi. Et en fait, oui. Moi, je pense vraiment que ça, c'est une philosophie que chacun devrait adopter, c'est apprendre vite, du moins, en ayant vite un échec ou en ayant un fail vite. Parce que bah, très rapidement, on a corrigé en disant, non, en fait, c'est
ça.
C'est France métropolitaine. Mais ça demande ce petit coup de...
Ouais.
Bah, si tu rencontres pas ces problèmes-là rapidement, en fait...
Oui, le constat. Le constat, t'as raison. Il y a 2 ans, j'ai lancé une boutique de produits physiques. C'était pour vendre les places pour mon Olympia. Pour Noël, tu vois, donc un mois durant la période de Noël. Et je mettais aussi à vendre mes livres dessus, dédicacés. Et le problème, c'est qu'en cas de Pâques, je ne pouvais pas faire de réduction. Je ne pouvais pas réduire la place du spectacle, qui était déjà en flux tendu.
Et, des livres.
Et la loi m'interdit de baisser le prix d'un livre. Donc j'ai créé des t-shirts, des t-shirts sur lequel tu as créé un numéro d'ailleurs.
Je ah sais oui, pas, c'est vrai, oui, oui, je
m'en rappelle. Ça me revient maintenant. Oui. C'est parce que je voulais que le t-shirt ait une utilité aussi en termes de tour de mentalisme possible. Et donc, on est parti sur l'une de tes idées, ça me revient tout à fait. Et donc, ce t-shirt avait que pour vocation de pouvoir faire partie d'un panier où légalement, je baissais grave le prix du t-shirt, ce qui faisait un lot moins cher, en fait. Oui. Quoi, tu vois, c'est comme ça que j'avais réussi. Le fait est que cette boutique, elle a pas trop mal marché. Et du coup, ça a été un problème.
Ouais.
Parce que comme elle ne marchait pas trop mal, il y avait quand même pas trop mal d'envois à préparer, pas trop mal de SAV à faire, pas trop mal de si. Et c'est pour ça qu'elle a été éphémère de fait. Ce n'était pas prévu forcément à l'avance, mais elle a été éphémère. Au bout d'une semaine, je dis c'est éphémère, c'est pour Noël. Parce que je me suis pris dans la tête toutes les problématiques que je n'avais pas pu anticiper. Et un peu ce que tu parles aussi, les frais d'envoi gratuits à partir de temps de commande. Eh bien, faut pas que ce soit dans le monde entier, en fait.
Ouais. Par exemple, là, chez Bertie, on a fait un truc, c'est qu'on voulait faire une boutique du merch, quoi, finalement, sur Bertie. Et on a utilisé un truc qui s'appelle Printify, qui est un plugin de Shopify. Et on n'a aucun stock à gérer pour avoir nos t-shirts, pour avoir nos casquettes, etc. C'est du print on demand.
Ok. Ok. Donc, voilà. Non, mais ça, en vrai, c'est quand même génial parce que moi, je veux tendre vers ces solutions.
C'est génial,
c'est-à-dire pas de stock et donc pas de manutention. Ouais. Et c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. C'est ce que je fais avec mon magazine, avec Curious. Ça part, comme c'est que sur abonnement, on connaît notre quantité à imprimer, donc on n'a pas déjà de défaut de stock avec cet argent qui dort, parce que mine de rien, il y a ça aussi. Hein. On n'a pas d'espace utile qui se transforme en stockage, donc on gagne aussi de l'argent parce qu'on utilise mieux nos espaces. Et ensuite, ça part de l'imprimeur directement chez le routeur qui fait la mise sous pli pour l'envoyer chez monsieur et madame tout le monde.
Et tu vois, c'est marrant parce que là, j'ai des bouquins, du moins j'ai mes derniers exemplaires qui sont à l'appart. Bah, en fait, si ça t'occupe un mètre carré d'un appart parisien, ça commence à chiffrer le
Tu peux rationaliser ton loyer divisé par le nombre de mètres carrés.
10 000 euros le mètre carré.
Ah, c'est ça. Non, mais c'est un peu fou de se dire ça.
C'est fou, hein, c'est fou.
Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu passionnant dans les boutiques et je voulais qu'on en parle ensemble devant le micro parce qu'on se rend bien compte que c'est complètement autre chose que de mettre en ligne un produit qu'on peut envoyer. Il y a mille et une autres questions, y compris d'ailleurs dans l'acquisition des nouveaux clients. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des tunnels de vente ? Je n'ai jamais utilisé ça. J'ai été, moi, en tant que utilisateur dans des tunnels de vente, je l'ai ressenti. J'ai joué avec aussi à l'époque... On va dire il y a 10-12 ans où c'était pas si connu et où j'avais compris ça et où j'avais compris que si je refusais l'offre d'achat, j'aurais bientôt une offre moins chère parce que j'avais remarqué ça dans des produits de formation avec la garantie satisfait remboursé, etc. C'est comme ça que j'ai rencontré Vincent Delourmel d'ailleurs.
Okay.
Parce que j'étais client chez lui et que je vous le dis, j'avais vraiment pas d'argent à l'époque et moi, tout ce qui était satisfait en remboursé, ça voulait dire remboursé gratuit pour moi. Et donc j'avais pris ces PDF et j'avais demandé remboursement et il m'avait demandé pourquoi. J'avais dit, il y a des choses que je connais et puis voilà, je vais marcher la garantie. Il a marqué que je n'avais pas à me justifier. Il m'avait écrit, vous êtes de mauvaise foi, mais je vais vous rembourser, effectivement. Il m'avait remboursé. Et c'est de là qu'on a commencé à s'écrire.
Ok, génial.
Ça, c'est la fun fact. Okay.
Du coup, pour répondre à ta question, les funnels de vente, du moins tunnels de vente, je n'ai jamais trop utilisé. J'ai commencé à regarder à quoi ça ressemblait parce que je voulais automatiser certains process, mais je n'ai pas digué la chose pour reprendre le terme startup.
Bah, en vrai, ça a l'air intéressant, mais déjà, comme tu le dis si bien, ça prend énormément de temps parce que c'est encore comme la découverte de la boutique. Tu découvres encore des solutions. Je ne parle même pas de ta stratégie, je parle de la solution en elle-même qui prend beaucoup de temps à découvrir. Et puis, de la même manière que tu parlais des plugins tout à l'heure, c'est un coût.
Ouais.
C'est un sacré coût, mine de rien. Donc, on voit bien que automatiser un marketing, automatiser un business, ça prend beaucoup d'argent en fait, d'investissement, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ça prend aussi beaucoup d'argent indirect avec l'énergie que ça te prend, qui n'est pas sur autre chose. Quoi.
Alors ça, c'est un truc, c'est assez marrant parce que moi, je suis assez fan des périodes d'essai où tu peux essayer vraiment pleinement la version pro. Et généralement, je me dis, tiens, je peux connecter ça avec ça. Donc, j'essaye de prendre la version d'essai en même temps.
Ouais.
Tu sais, je prends, si par exemple, j'ai 15 jours à un endroit, puis 15 jours à un autre, machin. J'espère, tu sais, que je vais pouvoir faire le truc.
Pour
et généralement, je me retrouve à payer toujours un mois pour continuer mon test.
Ouais.
Et bon, c'est le jeu, mais, Moi, je considère que si tous les mois, je mets une somme X pour tester de nouveaux outils, en fait, c'est de la R&D.
C'est ce que je veux dire, c'est de la recherche et développement, hein, clairement. Oui, c'est intéressant de faire ça. Et de... Nous, toi et moi, on communique beaucoup sur des solutions. Alors, c'est souvent toi qui communiques vers moi sur une solution pour Airtable, pour n'importe quoi, tu vois. Où, j'ai une note personnelle qui est les trucs à creuser.
Ah, okay.
C'est des trucs que tu me dis ou des choses que je vois passer ou, lors de mes recherches ou comme je suis très influençable via une publicité parce que le ciblage des publicités marche tellement bien que je commence à être très alimenté de ce genre de choses. Mais oui, je crois vraiment qu'il faut être en alerte et être prêt à dépenser un petit budget mensuel si nécessaire pour connaître les nouvelles solutions à chaque fois en permanence et avoir les nouveaux potentiels.
Je te dirais que je crois que le seul truc que j'ai vraiment en fixe, c'est Airtable, parce que je l'utilise pour tout. D'ailleurs, vraiment, allez-y, Airtable, c'est la bombe.
C'est joli.
Et c'est joli, ça fait plein de choses. Et sinon, après, je te dirais que j'ai 4 ou 5 abonnements à peu près tous les mois, on va dire peut-être une vingtaine d'euros de trucs que je teste, ou parce que j'ai pas eu le temps de finir. La période d'essai était presque trop courte et je teste encore. Là, récemment, je sais pas si je pourrais te dire, j'ai pas mal de trucs sur Trello. Là, j'ai payé un petit peu pour voir ce qui pouvait aller plus loin. Tu vois, par exemple.
Alors, toi, tu es Trello. Moi, je suis Monday.
Ah, t'es le diable.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'on peut leur expliquer pourquoi ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là ? Ce sont des.
Des Kanban, des boards ?
Ouais, voilà, des boards, des gestionnaires de tâches pour les équipes, ce genre de choses, mais qui essaient d'aller plus loin que ça, qui essaient d'être un peu powerful.
C'est de la gestion de projet collaboratif, et le but du jeu, c'est d'avoir un même endroit où tu te parles avec tes collaborateurs et tu peux suivre l'avancement des tâches.
Et Trello est quasi indéniablement beaucoup plus puissant que Monday, mais Monday a ce truc qui marche sur les gens comme moi. Il est joli. Ouais.
Et Trello, il marche, tu vois. Je vais me faire le défenseur de Trello.
Ah ouais.
Pour moi, il est fonctionnel, tu vois. Ah. Il est ouvert vers l'extérieur aussi, connectable. Par exemple, tu peux te faire des liens entre Airtable et Trello si tu as envie.
Oui, bah, Monday aussi, il est linkable de ouf.
Oui, j'ai pas digué, tu vois.
Non, il est linkable, mais Trello, de toute manière, historiquement, a une espèce de place de leader qui favorise son ouverture, en fait, en plus. Hein.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Moi, j'ai toujours réfléchi à quel moment j'arrête de chercher une nouvelle solution. Mmh. C'est quand tu es satisfait. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé sur PrestaShop, sur Shopify, sur WooCommerce. En fait, j'ai cherché. Puis au bout d'un moment, quand je suis content d'une solution, je m'arrête. Je me dis, OK, c'est celle-là. Ouais. Et généralement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à y changer.
Je comprends.
Donc là, tu vois, par exemple, le Trello me convient très bien. Je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai aucun intérêt à aller diguer des solutions comme
Monday. Oui, c'est bien sûr. J'avais essayé une autre solution il y a un an et demi. Alors, c'était pas Monday, c'était pas Trello. Ah là là, j'avais que ce mot-là à la bouche. Et je me suis rendu compte... En fait, si tu veux, quand j'ai découvert ça il y a un an et demi, deux ans, j'étais pas très au fait de l'existence même de ce genre de solution, tu vois. Donc, j'en ai trouvé une par hasard. Vraiment, j'ai plus le nom en tête. Et...
Je semble voir de quoi tu parles, mais alors, le nom m'échappe aussi totalement.
Et en fait, en l'utilisant, putain, c'était une corvée, quoi, tu vois. Et je l'ai... Pourquoi je te parle de ça ? Parce que je me suis rendu compte aussi de comment je sais que je ne suis pas content d'une solution. C'est quand je n'y vais pas.
Ouais.
C'est quand je n'y vais pas spontanément, je ne m'en sers pas spontanément. Je dois me mettre une note pour me rappeler de me servir de ma solution qui est censée me faciliter la tâche, tu vois.
Tu vois, par exemple, Trello, je l'ai intégré dans ma vie... Mais c'est-à-dire, je me dis, tiens, réponds aux impôts, machin, t'as ça à faire. En plus, tu peux automatiser pas mal de choses, donc ça, c'est très chouette. Et en fait, un outil, pour moi, il est vraiment hyper powerful le moment où tu réfléchis plus que tu es en train de l'utiliser.
Oui.
C'est intuitif.
Oui, complètement. On va rebasculer, on est bientôt à la fin de l'épisode, on va rebasculer quand même sur les boutiques. Quels conseils tu pourrais nous donner pour nous, c'est-à-dire moi et les gens comme moi qui veulent se lancer sur une boutique, on sait qu'on doit taper plutôt dans le trio que tu nous as conseillé là tout à l'heure. Est-ce que tu nous conseilles de se dire, quoi qu'il arrive, décalez votre lancement et faites des tests, mettez les mains dans le cambouis et tout, et ou faites appel à quelqu'un qui s'y connaît. Et en fait, si votre projet est assez conséquent, il faut vraiment vous entourer d'un spécialiste de ça, que ce soit en interne ou en freelance, et ou en fait... vous savez quoi, faites-vous une formation sur le sujet, une vraie formation?
C'est une très bonne question. Je te dirais de base que si tu n'as pas les sous pour aller payer une agence, parce qu'en fait, la solution un peu gagne-temps, c'est que tu vas payer l'agence et tu vas dire je veux ça et tu payes et ça coûte un peu d'argent. Je pense qu'un site e-commerce, tu dois être aux alentours de, je vais dire des chiffres qui sont peut-être un peu hauts, mais je pense 5-10 000 euros minimum.
Oui, je pense parce que pour un site non e-commerce, si tu veux un vrai site bien fait, là je te parle pour moi un site d'artiste par exemple, on va être vite sur un budget de 4 000 balles.
Ouais. Et si déjà tu n'as pas cet argent-là à consacrer, parce que par exemple moi ça ne serait pas rentable pour mes projets de magie.
Ah bah, tu vois, de moi ce ne serait pas rentable ça, non plus en vrai.
Je te dirais que là ça vaut le coup d'aller diguer des solutions et mon petit crush ça serait plutôt Shopify qui est assez rapide et en 15 jours d'essai si tu te focuses et tu peux commencer à mettre en place et après une trentaine d'euros pour avoir une solution qui est résistante et c'est parfait et après tu as quand même plein de tutos YouTube machin qui peuvent te montrer comment faire mais le meilleur moyen c'est tu te connectes, tu te crées un compte, tu testes et tu regardes si ça te convient. Déjà, ouais, c'est un bon
évidemment.
Truc.
Mais tu sais que ce que tu viens de dire, c'est ce qui m'a fait basculer sur Shopify. Un truc tout bête, je me suis dit, la littérature sur Shopify, quand je te parle de littérature, c'est un blog, un tuto YouTube ou un livre. Tu vois ce que je veux dire ? La littérature sur des problématiques que je pourrais avoir ou des solutions malines ou des ceci ou des cela, elle m'a l'air si riche et si facilement trouvable que c'est le dernier truc qui m'a fait dire ah on va aller sur Shopify.
Ouais. Je rajouterais dans cet argumentaire là, moi je regarde toujours si c'est français et si c'est open source.
Ouais.
Et donc PrestaShop, tu vois, c'est des marques parce que français, je crois que c'est des gars d'Epitech qui ont monté ça.
Ok.
Et français, open source, c'est pour moi c'est des arguments en plus quoi. Mais après Shopify fait très très bien le taf. Quoi.
Et Shopify, il y avait ce truc aussi pour moi, parce que je suis plutôt sensible aussi au Made in France, tu vois. Mais Shopify, il y a ce truc aussi qui est très bête. Il ne faut jamais oublier que je suis un utilisateur, moi, avant d'être autre chose. Hein. Et en tant qu'influenceur, par exemple, j'ai utilisé pour des sites, des backstage, tu vois, de tracking de liens. Et il y en a un en particulier que j'ai trouvé chambé à utiliser et donc après moi je parfouillais dans le code pour trouver la source et à chaque fois que je cherchais des sources de trucs qui me plaisaient c'était des plugins Shopify et du coup il y a eu ça aussi tu vois de me dire ah ça a l'air quand même très fourni en termes de solutions annexes quoi tu vois.
Yes. Et je pense que tu es déjà passé par un site WooCommerce sans t'en rendre compte.
Possible oui.
Et si t'as un site WordPress je te conseille d'installer WooCommerce. Je crois que c'est l'un des plugins les plus installés sur WordPress.
Okay.
Et ça vaut le coup, en fait.
Mais en fait, ça donne vraiment envie de fouiller. C'est ça, quand même, qui est marrant. La finalité, je trouve, de notre conversation, c'est que quoi qu'il arrive, ça donne envie d'aller fouiller un peu sur les trois maintenant. Tu sais, il y a un truc assez stimulant.
J'espère, en tout cas, j'ai pas d'action chez l'un ou chez l'autre.
Il y a un vrai truc stimulant. Les trois, je pense, en plus, ont une offre d'essai, tu vois.
Ouais.
Donc, il y a un vrai truc stimulant de se dire pour voir.
Et il y a un truc tout bête, moi, qui me décide généralement, c'est je me mets à la place du client final et je me dis est-ce que le design est ok. Donc tu vois, est-ce que je vais trouver le thème qui me plaît, même si moi je galère derrière dans l'arrière boutique tu vois un petit peu, mais si le design me plaît c'est un argument
oui c'est vrai compte. Oui bah, ça compte énormément. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur ces boutiques en ligne?
Non.
Bah, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
Ouais, merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi, merci à vous.
Et puis je pense qu'on se renfera un autre, si ça te dit, on parlera plus de notre métier créatif.
Carrément.
Puisque nous, nos conversations à la base, elles sont pour un cas très typique, c'est Michel Drucker qui m'invite à Vivement Dimanche, et j'appelle Pierre Bock pour lui dire « J'ai Vivement Dimanche à faire, on se voit quand ?» Ou plus marrant, l'année dernière, Navo qui m'appelle pour me dire « Ça te dit de faire du mentalisme dans le noir, c'est un concept ?» Et moi qui t'appelle pour dire « Ok, tu crois qu'on peut créer un truc ?»
Ouais, c'est vrai que tu m'appelles comme ça, mais c'est toujours avec plaisir et c'est quand tu veux.
Ok, on se fera une conversation dessus. Merci Pierre, où est-ce qu'on peut te suivre et est-ce qu'on doit te suivre?
Je suis généralement un homme de l'ombre. mon Instagram, BockPierre.
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 Et bien, ce sera en plus dans la description. Merci Pierre, merci à vous tous d'avoir écouté notre discussion. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Moi, en tout cas, c'était le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note peu importe où vous écoutez ce podcast, et puis à vous y abonner aussi. La prochaine fois, je répondrai à vos questions. Donc, si vous avez des questions à propos de ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre sur, majoritairement sur SoundCloud et sur Storm, parce que c'est là où je vais les collecter pour le format. Les questions ne restent pas sans réponse. Salut Pierre.
Salut l'Hippocampe.
À très bientôt, ciao.
Camp. Faites tremper votre cerveau à midi, le mardi et le vendredi, en direct et sur Storm, et à 13h sur toutes les plateformes.